ce n'est pas Trump qui a changé de politique vis-à-vis de la Chine. Le tournant était en réflexion sous George Bush dès 2007. Et c'est la secrétaire d'État de Barack Obama, Hillary Clinton, qui, en novembre 2011, annonça cette inflexion de la politique internationale des États-Unis qui reçut le petit nom de pivot stratégique vers l'Asie du Sud-Est. L'objectif de cette politique était de placer l'impérialisme américain au cœur de la région devenue la plus dynamique de la planète pour qu'il y défende ses intérêts. Jusqu'à la fin des années 2000, la priorité stratégique de l'impérialisme américain avait été l'Europe et le Moyen-Orient. En deux guerres, l'impérialisme américain avait réduit à un champ de ruines la puissance régionale qu'avait été l'Irak dans les années 80. Cela lui avait coûté plusieurs milliers d'hommes, plusieurs milliers de milliards de dollars. En 2011, l'impérialisme estimait qu'il pouvait se désengager du Moyen-Orient et basculer ses forces en Asie, où il fallait canaliser, endiguer la Chine qui commençait à y prendre de la place. Alors Mike Pence, c'était le vice-président de Trump, exprimait le 4 octobre 2018, dans un discours devant un parterre soigneusement sélectionné, ce que pense une partie de la bourgeoisie américaine de la Chine. Après avoir fait le bilan de son développement, pour lequel il affirme que les investissements américains ont joué un rôle moteur, Mike Pence dénonce longuement l'État chinois, les protections et les subventions qu'il accorde aux entreprises chinoises pour conclure que « nous ne voulons pas que les marchés chinois souffrent, en fait, nous voulons qu'ils prospèrent. Mais les États-Unis veulent que Pékin adopte des politiques commerciales fondées sur la liberté, l'équité et la réciprocité. Et nous continuerons de tenir bon et de leur demander d'agir de la sorte. » Voilà réaffirmé une partie des objectifs des États-Unis. En accusant l'État chinois de protectionnisme, les États-Unis cherchent à faire pression contre les chasses gardées du marché chinois ou, à défaut, à ne pas se faire grignoter leur propre marché, justifiant leur propre protectionnisme. Avec Obama, les États-Unis proposèrent, dans un premier temps, à leurs alliés traditionnels, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et les Philippines, un nouvel accord de libre-échange tarifaire, le Trans-Pacific Partnership, le TPP, un accord qui excluait la Chine. Cette politique du TPP fut dénoncée par Trump, le successeur d'Obama, comme inefficace et insuffisante. Trump engagea les États-Unis sur une autre voie, celle de la guerre commerciale, en taxant un certain nombre de marchandises exportées vers les États-Unis, mais aussi en interdisant à un certain nombre d'entreprises, comme ZTE et Huawei, de vendre leurs marchandises chez eux et chez leurs alliés. La concurrence économique entre les États-Unis et la Chine, dans certains secteurs, s'intègre en réalité dans la lutte pour l'hégémonie mondiale. Et les États-Unis défendent leur position. Selon les mots de Mike Pence, Pékin a pour priorité de développer les moyens de réduire les avantages militaires des États-Unis sur terre et sur mer, dans les airs et dans l'espace. La Chine cherche tout simplement à expulser les États-Unis d'Amérique hors du Pacifique Ouest et tente de nous empêcher de venir en aide à nos alliés. Mike Pence, qui s'inquiète par ailleurs de l'aide de la Chine au, je cite, « régime corrompu et incompétent de Maduro » dans notre propre hémisphère, c'est-à-dire sous leur nez, dans leur précaré immédiat, exprime ici la réaction d'un parrain de la pègre dont le territoire commence à être contesté par un petit nouveau. Les États-Unis complétèrent leur guerre commerciale d'un accroissement de la pression militaire et diplomatique. Les redéploiements militaires commencés sous Obama ont amené la marine et l'aviation à basculer 60% de leurs forces en Asie du Sud-Est. Les Américains ont entrepris de construire de nouvelles bases, de renforcer la coopération militaire avec le Japon, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie. Avec le Japon, l'Inde et l'Australie, ils forment désormais une alliance, le Quad, pour dialogue de sécurité quadrilatéral. Trump accéléra ce mouvement. Cela se lit dans les dépenses militaires des États-Unis. Si le retrait d'Irak puis celui d'Afghanistan avaient fait quelque peu régresser les dépenses militaires à 800 milliards de dollars en 2014, budget annexe compris, elles sont depuis 2015 reparties en hausse vertigineuse. Elles étaient déjà de plus de 1000 milliards en 2020, spécialement orientées vers l'Asie, et elles ont encore bien augmenté avec la guerre en Ukraine. Tous ces efforts, tout ce déploiement militaire visent à faire pression sur la Chine pour qu'elle reste dans le cadre défini et toléré par l'impérialisme américain, compatible avec ses intérêts. C'est une version moderne de la politique de la canonnière. C'est un fait que la Chine ne fait plus profil bas sur la scène internationale, comme le disait Deng Xiaoping en son temps. Pour son développement, pour son existence même, elle n'a pas d'autre choix que de sortir de ses frontières et de se heurter aux limites que lui a imposées l'impérialisme dans les années 50. L'un des points de friction entre la Chine et les États-Unis et leurs alliés concerne la maîtrise des routes maritimes, non pas à l'autre bout de la planète, mais sous les côtes chinoises. Si la Chine possède 18 000 km de façades maritimes, celle-ci débouche partout sur des mers semi-fermées par ses voisins et rivaux. Le Vietnam, la Malaisie, les Philippines au sud, plus au nord Taïwan, encore plus au nord le Japon, les îles Senkaku, que la Chine revendique, et la Corée du Sud. La plupart de ces États sont des alliés de longue date des États-Unis. Même le Vietnam s'en est rapproché, accueillant récemment un de ses porte-avions et recevant en don plusieurs patrouilleurs. Et si les Philippines ont cherché un temps à se rapprocher de la Chine, elles ont toujours tenu à leur alliance avec les États-Unis et le Japon. À l'extrémité occidentale de cette région, le détroit de Malacca est stratégique. Il voit passer un tiers du commerce mondial en valeur, la moitié du tonnage maritime mondial, 5 fois plus que le canal de Suez. C'est la route la plus courte entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, où passent les 2/3 du pétrole consommé dans cette région et 90% du commerce extérieur chinois. Avec la marine qu'il a déployée dans la région, l'État américain a la capacité d'interrompre à tout moment le trafic commercial chinois. En contrôlant toutes les issues maritimes, il a les moyens d'empêcher la marine militaire chinoise d'accéder aux océans Pacifique et Indien. Dans cet ensemble, la mer de Chine méridionale, entre Malacca et les grands ports chinois, joue un rôle particulier. Elle est bordée par 8 pays qui ont tous des revendications sur des îles et une multitude de simples récifs, d'écueils, voire de bancs de sable partiellement émergés qui la parsèment. La Chine ne se conduit pas autrement, elle les a intégrés, comme Taïwan et le Tibet, dans le périmètre de son intérêt national. Quand en 2009, le Vietnam et les Philippines voulurent étendre leurs zones économiques dans des zones maritimes occupées par la Chine commença à poldériser, à militariser les îlots qu'elle contrôlait en construisant sur plusieurs d'entre eux des bases aériennes, des bases navales en gagnant sur la mer, multipliant ainsi les points d'accrochage avec ses voisins et avec la marine américaine. Avec le développement économique qui est le sien, en État bourgeois responsable des intérêts de sa classe dominante, la Chine ne peut pas tolérer un statu quo qui mette ses routes commerciales et donc son économie sous la pression d'autres pays. La crise de 2008 la poussa encore plus loin. Les centaines de milliards déversés dans l'économie pour sauver la bourgeoisie chinoise et internationale de la banqueroute ont favorisé le développement de capacités de production à un point tel qu'il était évident dès 2013 que ces capacités dépassaient et de très loin les besoins. L'économie chinoise ne tient que par la spéculation immobilière et parce que l'État soutient à bout de bras nombre d'entreprises. Et la classe ouvrière chinoise se bat, notamment pour les salaires. En 2010, des conflits spectaculaires ont éclaté dans le Guangdong, vers Hong Kong, avec des grèves massives dans les usines Honda et des manifestations dans le monde paysan. 180 000 incitants de masse, comme dit l'État chinois, des grèves, des manifestations furent officiellement recensées en 2011, 2,5 fois plus qu'en 2008. La peur des réactions de la classe ouvrière, la nécessité de trouver des marchés pour une industrie sous-occupée, poussa l'État chinois sur ce qu'il a appelé, en jouant sur la corde de la grandeur chinoise passée, les nouvelles routes de la soie. Inaugurée en 2013 par Xi Jinping, tout juste nommé à la tête de l'État, elle consiste pour une bonne part à prêter à des États comme le Pakistan, le Sri Lanka, la Malaisie, le Venezuela, le Kenya, de quoi financer des travaux pour des infrastructures dont l'utilité n'est pas toujours évidente. En retour, ces États sous-traitent la réalisation à des entreprises chinoises, charge à eux de faire payer leur population. Les nouvelles routes de la soie ne se réduisent pas à de simples considérations économiques. Alors que les États-Unis tentent d'enrôler certains de ces pays dans leur politique d'endiguement, la Chine utilise les milliards des routes de la soie pour faire contrepoids et en rapprocher politiquement un certain nombre en Asie et en Afrique. Face au développement de la Chine, les États-Unis ont accru leur pression à ses frontières, une pression qui se matérialise depuis 2015 par des patrouilles maritimes en mer de Chine, c'est-à-dire sous les côtes chinoises, prétendant vérifier, au nom du respect du droit international, que la route est libre et ouverte à tous. Les Chinois répliquent à ces provocations en envoyant à leur tour des avions et des bâtiments de guerre sur zone ou en tirant des missiles surnommés « tueurs de porte-avions ». Jusqu'ici, les manœuvres ont été de part et d'autre minutieusement calibrées pour éviter tout dérapage. Mais en 2018, un destroyer chinois s'est rapproché à moins de 40 mètres d'un destroyer américain au cours d'une de ses opérations. La Chine est ceinturée par les États-Unis. Base en Thaïlande, à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Corée du Sud, au Japon, en Australie, sur l'île de Guam. La flotte américaine est en permanence sur zone, à l'est de Taïwan, dans l'océan Indien, en mer de Chine méridionale. Et l'armée américaine a décidé d'éparpiller ses bases et ses troupes afin, dit-elle, d'éviter de tout perdre dans un nouveau Pearl Harbor. Lloyd Austin, secrétaire d'État américain à la Défense, annonçait il y a quelques jours le déploiement d'une force de réaction rapide des Marines sur leur base d'Okinawa, une force qu'il a qualifiée de plus létale et plus mobile que le régiment d'artillerie actuellement installé. S'ils ne font pas la guerre, ils s'y préparent. La stratégie dite Indo-Pacifique des États-Unis, telle qu'elle se nomme depuis Trump, consiste aussi à associer leurs alliés traditionnels dans des exercices militaires conjoints, toujours plus nombreux, en leur demandant d'augmenter leur budget militaire. Ils ont entraîné avec eux l'Australie dans l'alliance AUKUS avec le Royaume-Uni, dont le renouvellement en 2021 s'est traduit par l'acquisition par la marine australienne de 8 sous-marins nucléaires d'attaque fabriqués aux États-Unis, au grand dam, on s'en souvient, du français Naval Group. Ils entraînent avec eux l'Inde dans des exercices maritimes militaires chaque année. Quant au Japon, bien intégré dans le dispositif américain, le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait doubler ses dépenses militaires. Dernier épisode, un accord conclu début février avec l'État philippin pour l'établissement de 4 nouvelles bases militaires américaines aux Philippines, des bases qui compléteront l'encerclement des côtes chinoises. C'est une politique systématique qui ne néglige rien. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient ouvrir des ambassades aux Tonga et à Kiribati, 100 000 habitants chacun, et des accords militaires ont été signés avec les îles Marshall et le Palau, 70 000 et 20 000 habitants. La Chine a progressé, paraît-il, dans les îles Salomon, mais en Micronésie, ce sont les États-Unis qui ont signé un accord militaire en 2021. Alors, dans cette partie de jeu de go où se joue la vie des peuples, la place des impérialismes de second ordre, comme la France ou le Royaume-Uni, semble dérisoire. Pourtant, l'État français se targue d'être une puissance qui a des intérêts à défendre dans l'Indo-Pacifique parce qu'il dispose de territoires et de bases militaires dans le Pacifique et l'océan Indien. Entre la Chine et les États-Unis, la France affirme même vouloir offrir une troisième voie, ce qui lui permet surtout de conserver de bonnes relations commerciales avec tout le monde. Mais en pratique, le petit impérialisme français, comme l'impérialisme anglais, s'aligne derrière les États-Unis en défendant le statu quo, c'est-à-dire le maintien en l'état des positions dominantes de l'impérialisme américain. Il participe ainsi, en mer de Chine méridionale, à des opérations dites de liberté de navigation et à des exercices militaires conjoints avec les États-Unis. Au bilan de la présidence de Trump, la présidence de Trump aura donc vu l'impérialisme américain pousser son offensive en règle contre la Chine, dans le ton comme dans les actes. Le démocrate Joe Biden a poursuivi cette politique sur le plan militaire comme sur le plan commercial. Ainsi, à la veille du dernier congrès du PC, en octobre dernier, l'équipe de Biden affirmait que sa, je cite, « priorité est de conserver son avantage compétitif sur la Chine », que la République populaire de Chine est le seul compétiteur qui a l'intention de reformater l'ordre international et qui possède aussi, de plus en plus, le pouvoir économique, diplomatique, militaire et technologique pour parvenir à ses fins. Les mesures américaines ne se firent pas attendre. L'État américain a décrété un quasi-embargo sur la fourniture à la Chine des semi-conducteurs les plus performants, ainsi que des machines permettant de les fabriquer. La Chine vient bien de répliquer en annonçant un plan étatique de 143 milliards de dollars pour développer elle-même ses semi-conducteurs. Mais les entreprises, la néerlandaise ASML et les japonaises Tokyo Electron et Nikon, ont aussi, ces entreprises qui ont un quasi-monopole sur les machines qui permettent de produire ces puces, ont obtempéré aux injonctions américaines, ce qui ne peut que compliquer les tentatives chinoises de rattrapage technologique. Biden ajoute ainsi à la guerre commerciale la guerre des puces. Apple, qui avait annoncé se fournir en puces mémoire auprès du chinois YMTC, a renoncé après la mise à l'index de l'entreprise. Quant à Taïwan, Joe Biden y a organisé en août la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, ainsi que la visite de plusieurs secrétaires d'État. Lui qui s'est fait élire en promettant la paix montre qu'il considère Taïwan comme un État indépendant, ce qui est une provocation de fait à l'égard de Pékin qui affirme depuis 40 ans que la Chine ne tolérera pas une indépendance formelle de Taïwan. Depuis que Joe Biden a été élu, au moins 9 ventes d'armes à Taipei ont été approuvées par le gouvernement américain. Et régulièrement, des navires de guerre américains rentrent dans le détroit de Taïwan au risque de provoquer un incident militaire. Alors, avec le ralentissement de l'économie mondiale, la bourgeoisie chinoise doit faire face au ralentissement de sa propre économie. Selon l'aveu de l'ex-premier ministre Li Keqiang en 2020, 600 millions de Chinois doivent vivre avec moins de 150 euros par mois et restent dans la grande pauvreté. Si les provinces côtières se sont bel et bien développées autour des grandes métropoles comme Shanghai et Pékin, les campagnes restent en retard. Quant à l'avenir, il se dessine comme partout sur la planète capitaliste, sombre. Et c'est à la classe ouvrière que la bourgeoisie présentera la facture. Des capitalistes, y compris chinois, considèrent que les salaires chinois sont devenus trop élevés. Certains, notamment dans le textile, depuis les années 2010, ont déjà choisi de délocaliser une partie de leur production en Inde ou au Vietnam. Le taux de chômage des jeunes, en particulier des jeunes diplômés, a d'ailleurs tendance à s'élever. Les menaces de krach immobilier aggravent la situation. Cette semaine, on a appris que, pour équilibrer leur budget qui dépend de la vente de terrains immobiliers, une vente qui a chuté, des gouvernements locaux ont amputé les salaires de fonctionnaires, ont réduit le chauffage dans les villes du Nord. À Wuhan, des dizaines de milliers de retraités ont protesté contre la diminution drastique des remboursements de la sécurité sociale gérée par ces gouvernements locaux. La guerre économique de Trump et de Biden ne peut qu'empirer les choses. Ainsi, après les dernières sanctions américaines, Apple a annoncé qu'il ferait produire la moitié de ses iPhones en Inde d'ici 2027, alors que plus de 80% vient actuellement de Chine, produit notamment par ses ouvriers de Foxconn qui se sont révoltés en octobre dernier contre leur confinement au travail. D'autres ont fait des annonces similaires, une orientation que certains appellent le découplage entre les économies occidentales et l'économie chinoise. L'avenir dira ce qu'il en est exactement, car en réalité, chaque capitaliste fait son calcul en fonction de ses profits. En prenant en compte non seulement les sanctions américaines, les salaires, les tarifs douaniers, mais aussi les avantages en infrastructure et en niveau d'éducation des travailleurs dont ils disposent. Globalement, si les importations de marchandises chinoises aux États-Unis restent élevées, elles tendent à progresser moins vite que celles de leurs concurrents en Europe ou au Vietnam. Il semble que les capitalistes américains diversifient effectivement leurs approvisionnements. Cependant, ce sont toujours des centaines de milliards qui, chaque année, s'exportent aux États-Unis. La Chine reste encore largement dans sa fonction d'atelier du monde. Dans les calculs des capitalistes occidentaux, il y a le marché intérieur chinois et ses nouveaux bourgeois et petits bourgeois. Certes, certains renoncent, comme PSA, face à la concurrence des constructeurs locaux. Mais pour d'autres, comme Volkswagen, qui vend en Chine plus de 3 millions de véhicules, pour LVMH, Total, Carrefour, mais aussi pour les trusts américains, comme General Motors ou Exxon, il est hors de question de partir. La bourgeoisie allemande, par exemple, n'a jamais autant investi là-bas. Malgré tout, le ralentissement de l'économie mondiale depuis la crise de 2008 et les deux dernières années de pandémie ont aggravé les difficultés de l'économie chinoise. Les confinements à répétition, les usines à l'arrêt ou en service réduit, même lorsqu'elles étaient en boucle fermée, les travailleurs enfermés 24 heures sur 24 dans les ateliers ont réduit la production et les exportations. De nombreuses usines petites et moyennes qui avaient fermé leurs portes ne les ont pas encore rouvertes. De nombreux migrants sont repartis dans leur village d'origine ou sont devenus livreurs à domicile. Avec ces difficultés qui s'accumulent, la lutte contre la corruption offre à la dictature chinoise une opportunité politique évidente. La corruption, qui choque la population, est aussi un risque politique pour le pouvoir, car les sommets ne peuvent pas en être exempts. Aussi, quand Xi Jinping se lance dès son arrivée au pouvoir dans la lutte anticorruption, il s'agit d'abord de s'assurer le contrôle sur les affaires qui pourraient sortir. Mais il s'agit aussi d'asseoir sa légitimité en répondant à des aspirations populaires, en en profitant au passage pour écarter ses concurrents politiques. Il assure ainsi une certaine cohésion de l'appareil d'État. Aucune voix dissonante dans les hautes sphères ne saurait être tolérée. Il en va de même de la mise au pas d'un certain nombre de grands capitalistes, ce qui serait inenvisageable dans un pays occidental. Le dernier en date à avoir été appréhendé il y a quelques jours, c'est le milliardaire Bao Fan, un financier, paraît-il. Mais Jack Ma, le patron d'Alibaba, a, semble-t-il, failli subir le même sort. Le pouvoir a bloqué l'introduction à la bourse de New York de sa filiale Ant, et il a disparu de la scène publique pendant plusieurs mois fin 2020. Pour les médias occidentaux, Jack Ma a eu le tort de critiquer le système financier chinois pas assez libéral à son goût. En réalité, un certain nombre d'entreprises privées chinoises ont atteint une telle taille qu'elles pourraient s'émanciper du parti et de l'État. Ce n'est pas pour rien que Xi Jinping les a rappelées à l'ordre. Le contexte international, l'affrontement avec les États-Unis, pousse au contrôle plus étroit des entreprises privées chinoises par l'État. La bourgeoisie chinoise est intimement liée à l'État, elle en sort, elle lui doit tout, et l'État chinois sait encore le lui rappeler. Enfin, comme tous les États coincés dans leurs frontières nationales où les difficultés s'accumulent, l'État chinois ne peut que tenter d'enrégimenter la population dans un nationalisme de plus en plus affirmé. Taïwan sert d'exutoire, tout comme le souvenir du siècle d'humiliation que le gouvernement chinois entretient dans sa propagande. Le nationalisme chinois, complété d'un racisme d'État envers tous ceux qui ne sont pas Han, comme les Ouïghours et les Tibétains, est ainsi une tentative pour l'État chinois de maintenir la société sous sa coupe, malgré les difficultés croissantes. Alors, dans la montée des tensions, les États-Unis se justifient en mettant en avant la puissance militaire chinoise, ce qui permet à Xi Jinping de développer une propagande symétrique, justifiant auprès de la population les budgets militaires. Mais même si l'armée chinoise progresse à grands pas, elle est loin de l'image que veut en donner la presse occidentale. Elle est certes nombreuse, 2 millions d'hommes contre 1,35 million pour les États-Unis. Mais alors que le budget chinois finance surtout des effectifs, le budget américain sert à acheter des armes de haute technologie auprès d'une industrie qui en a le quasi-monopole mondial. Le budget de la défense américain est au moins 3 fois supérieur au budget militaire chinois. L'armée des États-Unis surclasse partout celle de la Chine, dans le nucléaire, dans les airs, en quantité et en avance technologique. Même sur les mers, la presse occidentale insiste sur le nombre de bâtiments chinois, 360, effectivement supérieur aux 297 bâtiments américains. Mais c'est sans compter les alliés des États-Unis, et c'est sans dire que la Chine fait flotter essentiellement des patrouilleurs, tandis que les États-Unis ont 11 porte-avions nucléaires capables d'embarquer des centaines d'aéronefs. Aucun ne possède en fonctionnement à ce jour que 2 porte-avions de génération soviétique dont l'autonomie et le rayon d'action sont bien moins importants. Et l'armement ne fait pas tout. Ainsi, l'impérialisme américain dispose de 800 bases opérationnelles à travers le monde avec 200 000 hommes, tandis que la Chine n'en a qu'une en Afrique, à Djibouti. En Afrique, là où la France, un impérialisme de seconde zone, en dispose de 4 et a des troupes dans 5 autres pays. Dans la réalité, le détroit de Malacca, les mers de Chine sont sous contrôle américain. Alors ce n'est pas demain la veille que la Chine va occuper le Pacifique et naviguer sous les côtes de Californie, contrairement aux États-Unis qui, eux, naviguent en ce moment sous les côtes chinoises. Alors la Chine est-elle un nouvel impérialisme ? Comme toutes les puissances capitalistes, la Chine cherche à exporter ses capitaux, à gagner des marchés, à assurer ses approvisionnements en matières premières, en séduisant ou en menaçant ses voisins. Il n'y a là rien de très original. Le Qatar, qui s'est approprié le PSG, est-il pour autant une puissance impérialiste ? L'impérialisme, c'est la mobilisation des forces armées pour défendre les intérêts économiques des grands groupes capitalistes nationaux qui exportent massivement leurs capitaux. La Chine est bien capable de prêter de l'argent à tel ou tel pays pour qu'il passe commande à des entreprises chinoises, mais c'est l'État qui le fait, pas des banques privées, et la Chine n'a encore jamais projeté des forces militaires à l'extérieur de ses frontières pour imposer le respect d'accords commerciaux ou le remboursement de prêts. Elle en est réduite à pratiquer le « soft power », c'est-à-dire à convaincre et à séduire, là où l'impérialisme lui laisse des espaces, comme en Afrique quand il s'en détourne. Globalement, c'est la Chine qui reste une destination pour les capitaux des pays impérialistes, plutôt que l'inverse. Alors, que ce soit au début du XXe siècle ou après la crise de 1929, les pays impérialistes qui ont dominé la planète n'ont jamais toléré qu'un concurrent vienne empiéter sur ses zones d'influence et grignoter ses parts de marché. Au niveau régional ou au niveau mondial, c'est à chaque fois la guerre qui a tranché la question de la puissance qui dominerait. Les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale comme impérialisme dominant tous les autres, sans partage. Cette guerre, ces massacres, ces destructions ont permis au capitalisme de rebondir pendant une vingtaine d'années. Mais la crise de l'économie capitaliste ne cesse de s'approfondir depuis les années 70. La lutte pour le contrôle des marchés et des sources d'approvisionnement en matières premières et en main-d'œuvre bon marché ne peut en être que plus féroce. Si la Chine a pu offrir à l'impérialisme de nouvelles sources de profit en lui mettant à disposition son prolétariat nombreux et éduqué, c'est au prix du développement d'un État en mesure de contester les intérêts de la bourgeoisie américaine. Un État qui regroupe 1,4 milliard de personnes sur un sixième du globe, ce qui lui donne une force et des moyens non négligeables. Un État qui s'est construit de façon indépendante de l'impérialisme et que l'impérialisme n'a pas réussi à soumettre. Comme la Russie et dans une moindre mesure l'Iran, l'impérialisme américain ne peut pas la laisser faire. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ne vont donc pas s'atténuer. Fondamentalement, elles sont le fruit du monde capitaliste, d'un monde divisé en États-nations et dominé par l'impérialisme. Elles sont la preuve que dans cette planète capitaliste, il n'y a pas de solution nationale. L'histoire de la Chine le démontre, tout développement national ne peut se faire qu'aux conditions de l'impérialisme et dans les limites imposées par l'impérialisme. Ces tensions déboucheront-elles sur la guerre ? En tout cas, les gouvernements occidentaux, avant d'enrôler les hommes, cherchent à enrôler les esprits. Les États-Unis cherchent à associer la Chine à Poutine et à la guerre en Ukraine, en l'accusant d'aider la Russie en sous-main. Alors que les écoutes de la NSA sont la règle, les gouvernements américains ou australiens font démonter les caméras de marque chinoise, interdisent la 5G chinoise ou même TikTok, accusé de nous espionner. Tout est bon dans l'escalade. Le summum de ces dernières semaines fut sans doute l'affaire du ballon-sonde chinois accusé d'espionnage par les États-Unis et abattu en direct à la télévision par un avion américain, eux qui, les États-Unis, avec leurs satellites et leur contrôle sur Internet, espionnent la planète 24 heures sur 24. Malgré les tensions internationales et les pressions de l'impérialisme américain, l'interdépendance des économies américaines, européennes et japonaises avec l'économie chinoise reste forte. Mais une telle interdépendance n'a jamais empêché les guerres d'éclater. Si la situation dégénère, les entreprises s'adapteront, changeront de nationalité, comme Ford en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ou périront. Les États défendent les intérêts généraux de leur bourgeoisie, malgré ou par-dessus les intérêts particuliers. Il est bien peu probable que la Chine attaque frontalement les États-Unis, mais si ces derniers poussent Taïwan à se déclarer officiellement indépendante, si l'accumulation de bâtiments de guerre en mer de Chine mène à l'incident, ou si les États-Unis se décident à y reprendre aux Chinois quelques îlots, jusqu'où ira l'escalade guerrière ? Jusqu'où iront les uns et les autres ? C'est bien difficile à dire. En tout cas, les travailleurs ne peuvent pas compter sur les mécanismes de l'économie capitaliste pour éviter la catastrophe. Bien au contraire. Aujourd'hui, l'impérialisme américain manœuvre pour que la Chine reste à sa place et ouvre plus son économie. Il lui mène une guerre économique pour cela et il fait donner en appui son armada. Mais les guerres économiques sont souvent le prélude des guerres meurtrières. Ce fut le cas après 1929, quand le protectionnisme gagna les pays industrialisés. La guerre impérialiste est la continuation et l'exacerbation de la politique de pillage de la bourgeoisie, écrivait Trotsky en 1938 dans le programme de transition. Eh bien oui, seul le renversement de l'impérialisme peut réellement assurer la paix. La force sociale capable d'une telle révolution existe. C'est la classe ouvrière internationale. Celle de Chine est devenue la plus importante au monde, reliée par milliers à la classe ouvrière européenne et américaine. Les milliers d'ouvriers chinois de Foxconn qui se sont révoltés contre le confinement en novembre sont sous-traitants de l'américain Apple et leur patron est taïwanais. Malgré la dictature policière, cette classe ouvrière chinoise se bat. Des militants ouvriers en Chine devraient donner à la lutte contre leur bourgeoisie un caractère internationaliste, tirant les leçons du passé, affirmant que même à l'échelle d'un pays comme la Chine, il n'y a pas de perspective à long terme sans renversement de l'impérialisme. Ils rejoindraient le combat des ouvriers conscients d'ici, en lutte contre leur propre bourgeoisie, celle des pays impérialistes qui dominent le monde. Pour éviter la guerre, il n'y a pas d'autre voie que la révolution sociale à l'échelle de la planète. »